Sa parole plantée dans notre cœur, notre espérance est en Dieu. Nos yeux rivés sur la beauté du chemin qu'il éclaire et nos bouches pour chanter, recevons de lui la grâce, la miséricorde et la paix. L'Avent, c'est la fête du désir. Le désir de Dieu, le désir de la lumière, le désir de vérité, le désir de sortir, le désir d'en sortir, le désir de s'en sortir. C'est comme si une certaine torpeur, un très long assoupissement prenait fin. Au milieu de la nuit, une nouvelle aube pointe. Quelque chose d'inattendu, dont nous ne connaissons pas vraiment la signification, arrive, et ce quelque chose s'appelle la paix. Nous sommes appelés à être à la fois les témoins et aussi les artisans de la paix. Chers amis, chers compagnons, chers frères et sœurs en Christ, ici nous venons pour célébrer la grâce de Dieu, source inépuisable d'amour et de bonté. Nous sommes reconnaissants pour cette grâce que nous recevons sans mérite de notre part. Elle nous sauve, elle nous pardonne, elle nous offre une vie pleine de sens. Que cette grâce puisse devenir un réconfort en des temps difficiles et qu'elle nous permette de sentir et de pratiquer l'harmonie. Et nous puissions-nous en devenir des témoins en toutes circonstances. Nous louons Dieu pour sa grâce infinie. Je vous invite à vous relever pour chanter sur votre feuille de culte le chant 31-23, les trois strophes. Vous l'introduisez un petit peu, s'il vous plaît. Merci Isabelle d'avoir allumé cette flamme juste au moment où nous chantions cela. On n'aurait pas pu faire mieux. Merci beaucoup. une lecture tirée de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, versets 13 à 15. Alors Ésaïe lui dit « Écoutez-moi, toi et ta famille, tes descendants de David, on dirait que ça ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. »
Nous prions. Seigneur, que ta parole soit notre nourriture et notre réconfort, et qu'elle nous guide vers ta volonté pour nous et pour le monde. Nous nous réjouissons de te savoir toujours avec nous. Viens plus proche en nos cœurs, en ce temps de l'Avent, prépare-nous à célébrer la joie de la rencontre. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, du verset 18 au verset 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relations avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus.
Alors un jour, une amie et collègue m'a dit « La bonne nouvelle, pour qu'elle soit bonne, il faut avant tout qu'elle soit nouvelle. » Alors certes, en disant ça, elle ne tenait pas volontairement compte de l'expression grecque originelle « euangelion », évangile, qui aurait plutôt un rapport avec les anges, étymologiquement, avec des anges messagers. Mais en même temps, s'il vous arrive un ange, comme celui qui apparaît à Joseph dans son songe, et qui vient vous apporter une nouvelle, vous diriez sans doute « Tiens, ça, c'est nouveau ». Ou alors peut-être, vous voyez des anges tout le temps, et vous vous y êtes habitué. Ça s'appelle peut-être être croyant, ça, je sais pas. Bref, en tous les cas, ma collègue avait tout à fait raison de dire ça, car ça pose tout de même un problème, en effet, que les prédicateurs s'évertuent toujours à chercher, par exemple, ce qu'ils doivent dire sur un texte, alors que le bon chemin, à mon sens, serait surtout d'essayer de dire ce qu'on voit dans le texte. Et quand on s'échine à dire ce qu'on est censé devoir dire, on finit souvent inconsciemment par dire ce qui a déjà été dit, puisque le devoir dire est forcément un discours préexistant. Faire appel à la jurisprudence n'est pas conseillé à celui ou celle qui veut annoncer une nouvelle nouvelle. Alors donc, aujourd'hui, après cette introduction, que dire de nouveau sur un texte si beau? Et si beau aussi grâce à la musique, merci, si je peux me permettre. Mais au fond, pourquoi chercher encore du nouveau dans ce qui devrait nous apparaître comme nouveau? Un enfant porté et transporté par des prophéties multiples. Une prophétie qui dit qu'il sera nourri de crème et de miel, alors que non, en fait, on ne sait pas, mais a priori non. Un enfant porté et transporté par une tradition prophétique arrive. Il arrive comme celui qui est depuis longtemps déjà conçu, non pas comme un embryon dans le ventre d'une jeune fille, non pas non plus comme un concept, mais comme quelque chose d'assez fragile ou indéfini, une espérance logée dans une expression désirante, Dieu avec nous. Mais vous le savez, le problème de ce nouveau-né, c'est qu'il renaît à date fixe. 25 décembre pour les catholiques et les protestants, 7 janvier pour les orthodoxes, sauf, semble-t-il, pour les orthodoxes ukrainiens cette année, qui ont décidé d'arrêter la synchronie avec les orthodoxes russes. Renaissant perpétuel, comment celui-ci serait-il nouveau sous le soleil? Il faudrait alors peut-être recevoir cette expression « Dieu avec nous » 7 fois en plein cœur. Déjà pour ne pas la confondre avec l'expression « Dieu pour nous ». Vous savez, celle que l'on entend dans toutes les liturgies déjà autour de Pâques. « Dieu s'est donné pour nous ». Et qu'on entend aussi même dans le temps de Noël, dans certains cantiques, rappelez-vous, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, donc est donné pour nous, nous est donné à nous ». Cette expression « si » évoque un Dieu, certes en dehors de notre périmètre, mais qui vient s'arracher au sien pour venir chez nous, pour nous, qui se met ou que nous considérons, finalement, à notre service, puisque ce serait sa vocation. Ce serait un Dieu qui ne pourrait même plus se mouvoir en dehors de notre nécessité. Ce serait un Dieu utile. Ces feux d'artifice signifient-ils la victoire de l'équipe de France? Donc c'est très bien. Merci. Ne pas savoir le résultat me bloquait depuis le début. Alors, j'aurais pas dû le signaler, mais en même temps, il fallait que je parle des feux d'artifice. Il fallait que je parle des feux d'artifice, c'est comme un coup de fil, je ne peux pas le laisser à un enfant qui rit ou qui proteste en plein culte. Je suis obligé de le signaler, sinon tout le monde est contracté. Alors maintenant, essayez de rattraper, moi aussi. Ce Dieu-là, le Dieu pour nous, ce serait un Dieu qui ne pourrait même plus se mouvoir en dehors de notre nécessité. Un Dieu utile. Peut-être un fantasme, finalement, ou une illusion. Si tant est que le Dieu auquel nous aimerions, en tout cas, moi, vraiment croire, serait bien différent de la chose théologique dans laquelle, avec des mots vains, nous aimons vraiment le réduire. Pour bien comprendre, il faudrait se rappeler que nous disons souvent facilement à quelqu'un, et vous l'avez souvent entendu et peut-être déjà dit, « Je me réjouis pour toi. Je me réjouis pour vous. » Puis, il nous faudrait nous apercevoir que cela n'a pas grand sens quand on se réécoute bien. Ne veut rien dire d'autre, peut-être, que l'absurde « Je me réjouis à ta place. » Disons alors plutôt « Je me réjouis avec toi. » Et testons par cette simple substitution de termes si notre réjouissance est réelle et si nous sommes réellement avec cette personne pour laquelle, ce qui ne veut encore rien dire, nous prétendions nous réjouir. Pour en revenir à l'expression « Dieu avec nous », celle-ci fait voler en éclats ce malaise de la réduction de Dieu à notre service, puisqu'avec n'implique pas un sacrifice de ce Dieu. La suggestion sémantique est ici de l'ordre, alors on y va, de l'amitié, du compagnonnage, de la solidarité, de la marche ensemble, de la conversation, du partage, de la réciprocité. Avec nous signifie que l'un n'absorbe pas l'autre dans son désir ou son fantasme. Reste un problème avec cette expression « Dieu avec nous », c'est l'usage du mot « nous ». Donc je parle sur les trois mots, je ne parle que des deux dernières. L'usage du mot « nous », on le sait, l'expression, bien sûr, comment faire cette prédication sans ne pas citer l'expression « Gott mit uns » qui a été utilisée par les soldats allemands pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui était inscrite sur leur ceinturon de parade, une expression qui a été utilisée, vous le savez, par les nazis, entre autres, comme symbole de leur foi à un Dieu qui les soutenait, selon eux. Alors, qui est ce nous dangereux et ambigu ? Alors nous, oui, ça peut être moi et mon groupe, ma clique, mon clan, ma race, ma famille, ma faction, ma religion, mon courant, ma nation. Et chacun pourra donc revendiquer l'usage de cet avec pour ce qu'il appelle les siens, ce qui transforme cet avec, encore une fois, en un pour, tragiquement utilitaire, et même un peu blasphématoire, dans le sens ancien du désir de réduire Dieu pour se l'accaparer. Alors on pourrait déjà espérer qu'un jour les humains arrivent enfin à penser en nous, alors nous les humains, quelles que soient nos factions, mais si cela reste souhaitable, ce n'est même plus aujourd'hui suffisant. Quand je pense nous, je dois désormais penser à plus grand que nous. Par exemple, le terrestre, comme disait le regretté Bruno Latour, puisque récemment, nous, les humains, avons appris que nous ne sommes pas que des humains. Nous sommes aussi tout ce qui est déjà avec, entre, en nous, dans l'endroit où nous sommes, dans le concert de la création divine. C'est aujourd'hui par la prise de conscience de ce nouveau nous que Noël peut devenir neuf et que Dieu est avec nous. Alors ça ressemble à une fin. Mais ça ne l'est pas, parce que maintenant je vais parler tout à fait autre chose, mais de façon beaucoup plus courte. Comme ça, au moins, cette prédication sera nouvelle dans sa forme. Je voudrais terminer cette petite prédication par quelque chose qui n'a aucun rapport, donc c'est l'histoire de Joseph et de Marie. Et là, bien entendu, cela va être un tout petit peu plus difficile de dire quelque chose de nouveau sur ces deux-là. Je lis verset 19, « Joseph, son mari ». Sans doute que le choix de traduire par « Marie », le mot grec correspondant, est judicieux, car si on présente souvent Marie et Joseph comme des fiancés, on oublie aussi souvent que les fiançailles, en leur temps, étaient déjà de véritables engagements et que les fiancés, en cas d'adultère, étaient passibles de mort. Ce qui déjà nous instruit ce n'est pas nouveau, mais il est nécessaire de le rappeler, sur la spectaculaire modernité de ce texte et des évangiles en général, quand l'Esprit de Dieu lui-même contrevient aux règles les plus strictes. Mais n'est-ce pas le rôle de l'Esprit d'interroger les règlements humains ? Mais ce n'est pas tout, évidemment. Car le mot grec traduit par Marie veut simplement dire « homme » en tant que mâle. Ce qui nous donne Joseph son homme, tout simplement. En français, vous l'avez sans doute remarqué, en français d'usage courant, je dirais, cette réciprocité de la possession dans l'usage courant n'existe pas. Un homme dit « ma femme » et une femme dit « mon mari ». L'homme possède donc une femme, littéralement, dans cette expression, mais la femme, elle, ne possède qu'une partie de l'homme, c'est-à-dire la partie épousée de l'homme. Ce qui est drôle, en fait, c'est que les traducteurs, dans les traductions courantes, rétablissent le déséquilibre, que nous avons l'habitude d'entendre, qui n'existe pas du tout dans le grec. Le grec dit « sa femme » dans ce texte, hein, et son homme. À cause de l'usage, plaident les traducteurs qui protestent, là, tout à coup, parce que les gens ne vont pas comprendre. Il serait donc ici tout de même encore plus judicieux de traduire littéralement, car cela enverrait un peu de fraîcheur égalitaire, fraîcheur avec laquelle j'ai envie de terminer cette prédication, un peu anachronique, hein, sûrement, par rapport à ce texte, mais savoureuse, quand on lit que Joseph, finalement, c'est bien l'homme de Marie. Amen. Notre second chant de ce soir, et le dernier donc, le 31-18, que vous trouvez encore sur votre feuille. Eh oui. Oui, vous l'annoncez un peu aussi.
Seigneur, tu m'offres un jour nouveau, que ce jour soit bon pour moi et pour les autres, que je l'emplisse d'amour, que j'y mette la bonne volonté, la douceur et le pardon des offenses, que j'y mette de l'oubli de moi et du souci des autres, que j'y mette de la prière, de la foi et de la persévérance, que je ne garde pour moi que la joie que tu me donnes. C'est le moment des annonces. Le prochain culte particulièrement musical, dans l'extraordinaire ambiance dans laquelle nous sommes, c'est lui qu'il faut annoncer d'abord. Il aura lieu le 15 janvier prochain avec d'autres artistes, mais ce sera notre prochain culte particulièrement musical. D'ici là, dimanche prochain, c'est le jour de Noël, culte au temple de Port-Royal 18 boulevard Arago, et de même, le dimanche suivant, 1er janvier, culte également au temple à 10h30, 18 boulevard Arago. Continue, mon cher Robert, continue.
Tout va bien. Le 15 janvier, il n'y aura pas la Coupe du Monde. Il fera froid. Ça, c'est la deuxième excuse qui marche. Et puis, pourquoi pas les mêmes musiciens, je ne sais pas. En tout cas, je fais cette habile transition pour... je vous invite à vous lever pour qu'on vous remercie. Même si ce n'est pas fini, c'est bien d'applaudir avant que ce soit fini.
Merci. Bravo.
Donc, Emmanuel Burgos au piano. Clément Vivin au violon. Et Violette Descamps au violoncelle. Voilà, et nous avons la chance de continuer à les entendre. Et maintenant, c'est le temps de l'offrande. Un temps qui est important, puisqu'il signifie donner et recevoir, puisque nous sommes une assemblée qui partage et qui mutualise en fait ses ressources. Sachez que la paroisse ne vit que des dons de ses membres, ce qui est assez spectaculaire quand on y pense. Voilà, c'est le temps de l'offrande. Que le Seigneur bénisse ce moment.
Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, console et donne la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Je vous invite à vous relever pour l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Je vous invite à entendre cette parole de Jésus aux gens qui l'entouraient. Il leur a dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Et je voudrais vraiment que vous entendiez ces paroles pour vous-même. Vous êtes le sel de la terre, même si je n'ai pas la puissance de Jésus pour dire ça. Mais quand même, entendre ça, c'est quand même très agréable. Vous êtes le sel de la terre. Certes, il rajoute, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. Très bien. Il rajoute, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi, dit Jésus, que votre lumière doit briller devant les hommes. Donc, voilà, je vous invite à partir avec cette parole, pas tout de suite parce qu'il y aura la musique, mais entendez cette parole pour vous. C'est vous qui êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup encore une fois. Et le 15 janvier, bah, si chacun amène une autre personne, nous serons deux fois plus nombreux. Alors bonne semaine à vous tous.